wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Le Duo et Boris Pinault. Prise de sang assurée ce soir par Jean-Richard Dufour. Réalisation signée Assia Khalil. Ce soir, Corinne Rondeau, Charlotte Garçon et Antoine Guillot sont autour de moi. Notre affiche, Après la tempête, d'Hirokazu Koreeda, Amy Dickinson, A Quiet Passion, de Terence Davis et Mr. Universo, de Tizakovi et Rainer Frimmel. Vers 21h20, Xavier Martinet nous entraînera dans le petit salon pour parler du cinéaste Jonathan Demme, disparu la semaine dernière. Et puis bien sûr, il y aura encore des cadeau à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD de deux films de Brigante Ma Mendoza, Tacloub et Marosa, distribués par Pyramide. Et nous ouvrons cette émission avec le nouveau film de Koreeda, Après la tempête, présenté l'année dernière dans la section Un certain regard au Festival de Cannes. On va y suivre Ryota, auteur d'un premier livre, remarqué, même primé, mais qui travaille aujourd'hui comme détective privé, normalement pour préparer son nouveau livre. Il dépense tout son argent aux courses plutôt que de payer la pension alimentaire pour son fils de 11 ans qu'il a eu avec Kyoko, dont il est aujourd'hui divorcé. On aura compris que plus rien ne va dans sa vie.
ホールの計画した。
お金。
月に一度の楽しみはさ。
約束したでしょ。
払わないと言ってないし。
いつ。
知らない方が良かったんじゃないですか、相手の男のことなんか。
大きくなったら何になりたいんだ。
なりたいものになれた。
どうしても来たいっていうかさ、信号は。
パパも子供の時上手だったのよ。こんな日におばあちゃん一人残して帰るの。
母さん、俺たちもうあれなんだからさ。
いや、困ります。
久しぶりに家族水入らずでね。
来るなわけ。そういうこと初めから。
違う。
今は愛せないのかね。いつまでもなくしたものを追いかけたり、叶わない夢見たり、そんなことしてたら毎日楽しくないでしょ。
行こうか。
Après la tempête, sorti sur les écrans mercredi dernier. Donc, quelques auditrices et auditeurs, nombreux peut-être, l'ont déjà vu. On va pouvoir en parler en connaissance de cause pour celles et ceux qui nous écoutent et qui l'ont déjà vu, ce film. Corinne Rondeau, d'abord, pour commencer.
Alors, voilà un film dont on n'a pas trop l'habitude de voir chez les Nippons, puisque c'est un film qui est dans la banlieue, on va dire. C'est un monde de HLM, on circule beaucoup dans cette zone, et ça, c'est très particulier. Je lui ai trouvé presque une facture un peu cinéma d'auteur français, ce film-là. Par ailleurs, bon, indépendamment de ça, et le rôle de la grand-mère de ce Ryota, en l'occurrence, qui donne une fraîcheur à ce film dans les petites choses du quotidien et dans lesquelles se glissent un certain nombre, voilà, d'événements de la vie, comment on se tient dans une famille, qu'est-ce qui va se passer. J'ai trouvé le film d'une très grande platitude, d'un ennui profond. Donc ce personnage, donc comme vous l'avez décrit, voilà, vit sur un projet d'écriture dont il est très loin en faisant le détective. Et évidemment, il y a quelque chose de ce personnage qui court après de l'argent qu'il doit rendre, qu'il doit donner comme pension à sa femme, à son ex-femme. Le fait que cette situation va peut-être l'empêcher de voir son fils. Et tout ça va se retrouver à se discuter et avoir un événement dans sa vie à lui, puisque tout le film, pendant une heure dix à peu près, c'est juste aller à la tempête, puisque après la tempête, c'est quand le film se finit. Donc le film n'annonce pas le début du film, le titre n'annonce pas le début du film, mais la fin du film plutôt. Et donc pendant très longtemps, on a cet adulte qui est père d'un enfant, mais qui par ailleurs est tout à fait... immature, qui court après ses désirs, ses rêves, et comme il y a une phrase qui va reprendre tout ça par la mère, donc faisons confiance aux anciens qui nous disent quelque chose, puisque le film se joue entre la mère qui sait qu'elle va partir, qu'elle va mourir, et en même temps un père dont le film débute avec l'enterrement, le décès du père. Donc c'est ce rapport en fait à qu'est-ce qui reste quand ceux qui ont compté sont partis, et comment on s'en sort avec sa vie. Donc ça tourne évidemment autour de la famille, qu'est-ce qui s'y passe, et en même temps son propre choix d'adulte à l'intérieur d'une vie qui ressemble pas à grand chose. Donc moi j'ai trouvé le personnage sans doute bien campé par l'acteur japonais, mais par ailleurs le personnage qu'il incarne est d'une platitude, d'une naïveté plate incroyable. Il y a vraiment son ex-femme qui donne un peu de lumière, le petit garçon qui joue le petit garçon comme il faut, et cette grand-mère absolument merveilleuse.
Bon, on retient la grand-mère pour l'instant chez Corinne Rondeau dans le jeu des sept familles. Antoine Guillot.
Moi, je suis beaucoup plus touché par le film. J'avais émis des réserves, je me souviens, sur le film précédent d'Hirokazu Koreeda, que je trouvais d'une certaine joliesse.
Notre
petite sœur. Je sais qu'on en avait discuté ici, qu'on n'était pas complètement d'accord.
Je vous confirme.
Mais je trouvais qu'il partait justement vers quelque chose qui faisait un peu système chez lui, et qui partait vers quelque chose de très joli, de très gentil, que je n'ai pas retrouvé dans ce film, et ce qui m'a beaucoup plu. Parce que je trouve le film plus âpre que plat pour ça, y compris dans une façon assez drôle de le faire, avec ce personnage de grand-mère joué par la formidable actrice Kirin Kiki, qu'on avait vu dans le dernier Naomi Kawase, si je me souviens bien. Et qui est un drôle de personnage, parce que effectivement le mari vient de mourir, mais avec sa fille, elle va dire que finalement c'est pas plus mal, parce que c'était un mari assez assez décevant, et on se balance des petites vacheries en famille un peu sur tout le monde. Et moi ce personnage de Ryota, donc personnage principal, m'a beaucoup touché, parce que c'est un personnage un peu incapable en tout, c'est-à-dire c'est un mauvais père, un mauvais fils, un mauvais mari, un mauvais écrivain probablement aussi, en tout cas il n'arrive plus à remplir les promesses qu'on avait cru déceler en lui. Et tout le film est là-dessus, effectivement, sur un personnage qui n'arrive pas à faire complètement le deuil de ses rêves d'enfance. C'est aussi ce qui reviendra régulièrement. Voilà, tout le monde ne peut pas devenir celui qu'il voulait être, mais lui voudrait y croire encore, tout en sentant que ce n'est plus possible. Je trouve que ce film est un assez beau et subtil éloge de la perte, du renoncement, mais aussi de ce qu'on peut essayer de vivre après. Le titre japonais n'est pas d'ailleurs « Après la tempête » ou « Entre deux typhons » comme ça pourrait être ici. C'est plus profond que la mer, et c'est vrai qu'il est question de descendre assez profondément pour pouvoir éventuellement remonter. Mais pour ça, et je trouve très beau justement cette façon de filmer cette cité qui est d'ailleurs celle dans laquelle a grandi Koreeda. Donc il la filme vraiment comme quelque chose de très personnel, à la fois comme elle a dû être quand lui était enfant et telle qu'il la regarde maintenant que ses parents sont morts d'ailleurs. Et cette façon de filmer cet intérieur tout petit, qui est celui de la grand-mère, en faisant sentir qu'il y a longtemps qu'elle y habite, qu'il y a des tas de recoins, et il arrive à presque contaminer notre regard sur cet appartement, puisque le personnage du mauvais fils va passer son temps à fouiller dans les coins pour essayer de trouver une éventuelle fortune, quelque chose à voler, de même qu'il vole le petit gâteau qui est sur l'autel familial sans aucune vergogne, tout en râlant sur la qualité du dit gâteau. Et on est là à scruter cet appartement, à chercher des recoins, et cet appartement tout d'un coup recèle plein de mystères, plein de toute une histoire et plein de cachettes possibles. Donc j'aime beaucoup en plus cet acteur Hiroshi Abe qu'on avait vu encore dans un habitué de Koreeda, mais qui est très grand et qui a cette longue figure triste comme ça, qui est très, que je trouve très émouvante et très étrange en même temps. Et ce grand corps, par rapport à celui de Killing Kiki, qui est toute petite, donne une sorte de déséquilibre dans le plan qui va beaucoup dans le, voilà, dans cette manière assez étrange de voir le film, qui me touche vraiment beaucoup.
Bon, alors, Antoine Guillaume prend toute la famille, lui. Charlotte Garçon.
Moi, je vous rejoins, Antoine, sur la représentation de l'espace, parce qu'il me semble que c'est ce que creuse le plus peut-être Kore-eda dans le film, au-delà d'une psychologie qui, moi aussi, me semble quand même un petit peu trouver ses limites, surtout si on a vu plusieurs de ses films familiaux. Alors, dans Still Walking, où c'était déjà la famille, où déjà la même actrice portait le même nom, le même prénom, et le même acteur, le même prénom, donc on se dit que c'est peut-être une sorte de sequel de Still Walking, mais Still Walking était dans une maison à l'ancienne, tout à fait différente, en bois. Enfin bon, il y a eu beaucoup le nom d'Ozu qui a circulé au moment de Still Walking. Et là, effectivement, cet espace caractérise le film, même si c'est pas du tout un film uniquement en intérieur. Hein, il y a beaucoup de scènes à l'extérieur, mais je trouve que c'est de cet appartement dont on se souvient, et aussi de la cité. Alors moi, je l'ai perçu, cette cité HLM, dont j'ai lu après qu'il avait effectivement grandi dans ce lieu, comme, vous savez, ce qu'on perçoit comme étant anciennement nouveau. Mmh. C'est-à-dire qu'on sent que ça a été du neuf et très réjouissant pour les gens qui s'y sont installés. Puis après, bah oui, ça s'use, c'est un peu... Et rien ne s'est vraiment renouvelé et c'est resté d'une espèce de vieux nouveau, quoi. Et ça, je trouve que ça, c'est un peu la caractéristique de tout le film et de son analyse comme ça du désillusionnement, plutôt que de la désillusion. Effectivement, cet état infusé, comme ça, de vieux, vous savez, sachets de thé qu'on a laissé dans une tasse. Et cette question de l'infusion, de ce qui... Il y a beaucoup de cuisine aussi dans le film, puisque la grand-mère cuisine et elle a gardé, par exemple, au congélateur la sauce, une sauce qu'elle sait très très bien faire, mais elle l'a gardée 6 mois. Et 6 mois, c'est parce que son mari, elle le destinait à son mari et son mari est mort il y a 6 mois. Et elle le sert à son fils. Il dit, mais c'est dégoûtant, t'as gardé ça 6 mois. Et elle dit, mais peu importe, c'est le congélateur. Mais il y a ce côté vieux reste qui renvoie au cadavre. Et donc, les choses qui sont des choses de l'ordre de la joliesse japonaise, vraiment à la limite de la mièvrerie et du folklore, dont on se dit que quand même Kore-eda sert un petit peu ce folklore japonais, y compris pour l'exportation, mais finalement arrive quand même à être récupéré par cette question de la trace et des restes et des reliques, parce qu'à un moment le personnage, par exemple, sent la nécessité au milieu de la nuit d'aller gratter, vous savez, l'autel qu'il y a dans les intérieurs japonais où on fait brûler de l'encens pour les disparus, normalement, je crois, une fois par jour. Et ils grattent les vieilles cendres d'encens et les petits morceaux de bouts de bâton d'encens qui n'ont pas brûlé. Et quand il fait ça, et là, il y a vraiment un travail sonore dans tout le film, on a l'impression qu'il est dans une urne funéraire et que c'est des restes humains qui grattent. Donc je trouve que Kore-eda est meilleur dans la représentation de l'espace et dans les détails, ce type de détails, et notamment des détails sonores, aussi le bruit du seau S-E-A-U d'encre, du seau S-C-E-A-U, pardon, d'encre qu'on gratte sur l'encrier du père. Voilà, c'est des choses qui sont de l'ordre du détail, et du coup il y a une sorte de dentelle ou de broderie, mais sur l'ensemble ou sur le renouvellement qui pourrait être dans l'œuvre de ce cinéaste, je trouve que il y a effectivement quelque chose d'un petit peu fatigué ou de très cyclique. Hein. D'ailleurs, le récit lui-même est effectivement typhon numéro 23 au début, typhon numéro 24 après. Ouais. Donc on a un petit peu envie de le secouer aussi.
Qui change son thé, quoi.
Qui change son thé. Non, il faut laisser infuser. C'est ce qu'ils disent aussi au début du film, parce que c'est vrai qu'il y a des choses très drôles, il y a des choses très lourdes, hein, m'a-t-il semblé. Mais sur la question de la trace, de la réminiscence, j'avais noté ces questions des noms et des prénoms, et on se souvient quand même qu'Antoine de Wanel a lui aussi été détective privé, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être une piste là, on sait que la cinéphilie de Kore-eda, hélas, ça fait partie des potentialités du film qui, pour moi, sont pas du tout explorées. Et je trouve ça extrêmement dommage, parce que son binôme et cette autre filiation qui est en fait un plus jeune qui en fait se veille sur lui. Donc il y avait quelque chose qui me semblait vraiment riche, intéressant et plein de promesses. Mais pour aller vite, moi j'ai attendu 2 heures que le film commence, et là, c'est pour moi, il n'a jamais commencé, pour le résumer vraiment très rapidement, parce que c'est vrai que j'ai du mal à croire que c'est le même cinéaste qui a fait notre petite sœur, qui m'a tant ému, bouleversé, que je trouve ni gentil, ni joli, je ne sais plus comment vous avez dit, Antoine, mais qui au contraire, je trouvais très rêche, très rude, très profond, pour le coup, plus profond que la mer, au plus profond de la mer, alors qu'ici, on est vraiment à peine sur l'écume, et si ce n'était le personnage de cette grand-mère qui, effectivement, amène le peu de vie qu'elle a de ce film vient pour moi tout entier d'elle. Vraiment, l'agence de détective, ça m'aurait intéressé que Kore-eda s'y plonge plus. Charlotte Garçon.
J'ai pensé aussi à Antoine Doinel et son agence de détective, mais je me suis dit que le fait que ce soit soi-disant pourquoi en prendre ce job pour faire de la recherche parce qu'on est écrivain, mais on s'aperçoit tout de suite qu'en fait il a juste besoin de cet argent. Ouais. Et en fait, du coup, nous, spectateurs, on se voit retirer tout le bénéfice romanesque
absolument.
Qui est effectivement chez Truffaut. Parce que dès qu'on est dans l'agence détective, il y a du, y a du roman, là, il y a de l'adultère,
il y
a de l'amour ici. Un peu tordu. Et ici, en fait, tout ça n'est qu'une espèce de miroir de sa vie de famille sordide et de couple. Voilà. Et donc, je pense que c'est cohérent quand même sur ce que ça dit de la désillusion. C'est-à-dire qu'on peut même pas trouver cet échappatoire romanesque.
Non, la désillusion, elle est pour moi spectateur alors aussi. Corinne Rondeau ?
Non, mais c'est surtout l'agence de détectives, c'est surtout un prétexte pour le film. Parce que ce qui l'intéresse, c'est le dernier moment du film où on se retrouve à l'extérieur avec son fils pour discuter et que quelque chose de son propre passé au père se rejoue dans la mémoire.
Ça prend du temps pour être arrivé là.
Oui, mais en fait, moi, je trouvais que cette manière, parce que là, je suis tout à fait d'accord avec vous sur comment il filme cette intérieur.
Ah et oui, ça, je trouve ça formidable. Absolument formidable. On ne voudrait pas en sortir.
Et oui, sauf qu'il n'arrête pas d'en sortir pour les champs de course, pour ses rapports avec les filatures, et vous allez dealer ceci et cela pour ramasser de l'argent. Et en fait, à l'intérieur de toute cette trame anecdotique, il n'y a rien qui transparaît. Et pour nous tirer jusqu'au bout, très très longtemps et très longtemps, justement, avec des petits duos comme ça, la grand-mère et la belle-fille, le père et le fils, et on se dit... Oh là, il va se passer quelque chose, mais c'est déjà trop tard. Et quand il se passe, il n'y a rien, ou tellement peu. Ouais. Alors ça, c'est pour moi, c'est vraiment une grande déception. Et la fin finie d'une sorte de... Mais les bras m'en sont tombés. Déjà, la phrase de la grand-mère qui dit « Pourquoi les hommes rêvent-ils de ce qu'ils n'auront pas ?» et ils s'accrochent à tout ça. On se dit « Bon, on va s'arrêter là. Ouais. » Bon, le côté savoir abandonner les choses, lâcher, renoncer, passer par la voix off ou l'attitude, c'est insupportable, mais insupportable. Et donc je trouve que c'est un film qui avait tous les moyens d'être un très beau film, justement romanesque, et qu'il ne l'est pas parce qu'il a choisi un rapport peut-être trop reliquaire, à chercher dans le détail des propres points de ce qu'il voulait lui-même infuser de sa propre vie dans ce film, et je trouve ça tout à fait raté.
Vous avez un autre argument que vous n'avez pas développé, Antoine, pour finir sur une note positive concernant Après la tempête.
Mais c'est-à-dire que tout ce que j'entends comme critique me replonge étrangement dans l'émotion de ce film, y compris sur le ratage de ce qui aurait pu être romanesque dedans, de ces scènes d'extérieur, de cette fonction de détective privé où il continue de manière plus ou moins rocambolesque, perpétuellement, enfin presque volontairement à rater tout ce qu'il entreprend.
C'est pas un mauvais garçon, Antoine. C'est un garçon impuissant. Il n'est pas mauvais.
Et précisément, c'est parce que c'est un bon garçon. Et la réunion si tardive à la fin qui permet justement d'envisager sereinement la perte, pour moi, me bouleverse encore.
Bon, écoutez, après la tempête,
la parade, Antoine.
Dirokazu, Kore-eda en salle depuis mercredi dernier.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Il y a encore du beau monde à suivre dans La Dispute, puisque nous aurons Emily Dickinson et Mister Universo. Ça, c'est vraiment une sacrée affiche. Tout d'abord, Xavier Martinez, qui n'est pas rien non plus, que l'on suit dans le petit salon. Martinet, une sorte de croisement entre Emily Dickinson et Mister Universo, peut-être. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, le silence de Jonathan Demme.
Eh oui, il est décédé la semaine dernière. Ce que j'ai voulu relever d'abord, c'est une série de contrastes. D'abord, entre la pluie d'hommages, comme le dit l'AFP, et le caractère relativement méconnu de Jonathan Demme, puisque le New York Times lui-même prend la peine d'expliquer comment prononcer son nom, Demme. Ensuite, entre une carrière relativement discrète, en dents de scie, comme le dit Eric Neuf, dans le Figaro, mais qui a remporté quand même 6 Oscars en 2 films, Le Silence des Agneaux et Philadelphia. Tous ses acteurs principaux l'ont eu, Jodie Foster, Anthony Hopkins, Tom Hanks. Que serait-il devenu s'il n'avait pas eu ses rôles et ses films, surtout? Contraste enfin dans le travail du réalisateur qui est passé par tous les genres, on pourrait dire des films de prison de femmes, des documentaires politiques, des concerts filmés et des thrillers à la limite de la comédie ou le contraire. Une carrière presque d'acteur, mais en fait celle d'un réalisateur. Les trois principaux quotidiens français ont d'ailleurs souligné que Demi avait débuté dans les productions Roger Corman, une écurie, comme le dit un journal pour de nombreux jeunes réalisateurs aujourd'hui affirmés, mais aussi sur le plan de la production, une usine à série B, dit un autre journal, et donc école de la contrainte budgétaire. Intéressant deuxièmement, ce sont que les hommages vont autant à l'homme qu'au réalisateur, ce qui est assez rare à Hollywood. Aux États-Unis, les trois acteurs précités ont été parmi les premiers à dire leur perte, c'est le plus grand des hommes, selon Anthony Hopkins. Et puis il y a aussi des dizaines d'autres, Meryl Streep, Martin Scorsese, David Byrne, le chanteur des Talking Heads, sur qui Jonathan Demme avait fait un film. À partir de là, je dirais qu'il y a au moins trois manières de regarder le travail et les films de Jonathan Demme. Si Le Monde axe sur sa place dans l'histoire d'Hollywood, avec un habile réalisateur, je cite, susceptible de capter un air du temps pour produire d'excellents films sans forcément bâtir une œuvre, Libération, lui, préfère évoquer son style. Je cite encore, une signature visuelle, les gros plans sur le visage de ses stars filmés comme des regards caméra intenses et qui font sans doute 80% de la réussite du Silence des Agneaux. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu un gros plan qui ressemblait à l'idée que je me faisais d'un gros plan, c'était dans Le Silence des Agneaux, disait Paul Thomas Anderson dans Slate. On pourrait presque en dire autant de Philadelphia. En somme, un maître du less is more, comme le dit Libération, en référence à son passage chez Corman. Puis cela se traduit aussi de ce style dans l'art de la rupture de ton, explique Jean-François Roger dans Le Monde. Ainsi, la scène de danse dans Dangereuse sous tout rapport, où l'on passe du badinage en un instant au thriller, en un regard, même celui de Ray Liotta. La scène de Philadelphia aussi, à 5 minutes du début, où le regard de Tom Hanks change, la musique a cessé, puis il remet ses écouteurs. Et plus que cela, finalement, pour le New York Times, troisième manière de voir, Demme est aussi un cinéaste des États-Unis, et plutôt qu'une fresque des États-Unis, des marges et de la formation de l'esprit d'aventure qui va avec, dit le journal. Demme a puisé ses sujets dans la sous-culture américaine, les héros sans personne pour les chanter, dont parle David Byrne dans une lettre publiée dans Slate, en témoigne, notamment pour le journal, son rapport plus particulièrement au rock et à ses avatars caribéens, mais aussi le choix de certains premiers personnages ou situations, c'est évident dans certains films, mais aussi dans la rencontre entre le repris de justice et rocker Ray Liotta et le yuppie Jeff Nichols sur le tapis de danse, encore une fois, mais aussi l'attention particulière apportée aux costumes, on pourra en reparler si vous le voulez, une sorte de, dit le journal, marmite de briques et de broc, tape à l'œil, de bijoux, de la plus grossière pacotille et de costumes si effrayants qu'ils vous coupent le souffle. On ne pourrait pas dire mieux du Silence des Agneaux qui culmine dans certaines scènes, notamment cette image du tueur Buffalo Bill, le tueur horrible en jeune vierge grotesque. Alors, ultime génération de cinéastes hollywoodiens susceptibles de doper régulièrement un système à bout de souffle sans véritablement le remettre en cause, comme dit Jean-François Roger dans Le Monde, peut-être, mais finalement porté par Corman, lui aussi, Jonathan Demme aura eu, avec peu de moyens, porté au plus haut des acteurs et une manière de voir à hauteur d'yeux ou à hauteur d'homme. Et la question qu'il nous pose, je me disais, c'est qu'est-ce qui distingue finalement un habile faiseur dans l'air du temps d'un grand cinéaste?
Alors, si on a la réponse en quelques minutes, ça va être quelque chose. Beaucoup de notes avec cette belle écriture bleue, Charlotte Garçon, comme votre micro, comme votre chemisier ce soir.
Moi, je me suis aperçue à la mort de Jonathan Demme que je n'avais pas vu tant de ses films. Et c'est peut-être pas un hasard parce que, effectivement, si on n'est pas forcément amateur de cinéma de genre ou de cinéma B, même si ça n'existe plus officiellement.
Corman, c'était plutôt Z que B. Enfin,
voilà. Autre chose. Finalement, pour moi, il n'existait pas en tant que styliste. Enfin, le mot style appliqué à lui me paraît effectivement assez étrange. Et vous parliez de vêtements, évidemment, je me souviens de cette étoffe cousue avec de la peau humaine. Mais c'est plus parce que j'avais été terrifiée par ce film qu'autre chose. Et j'ai plutôt souvenir d'un cinéaste humaniste, aussi pour avoir rencontré sa collaboratrice avec qui il a co-réalisé, me semble-t-il, il y a quelques années, un documentaire sur Katrina, enfin sur l'après-Katrina à la Nouvelle-Orléans, en parlant de tempête et de typhon. Et effectivement, à travers simplement la parole de cette femme plus jeune, je sentais un amour d'un être humain. Et apparemment, c'est ce qui ressort de tout, je vais dire, du tout Hollywood. Et c'est peut-être assez, c'est peut-être la fin de ces personnages-là dans l'histoire des studios qui est plus à déplorer que véritablement un artiste ou un cinéaste auteur. Cette espèce de personnalité qui arrive à endurer la vie de studio et à ne se faire que des amis, c'est assez étrange. L'humanisme, il transparaît évidemment quand même dans Philadelphia de manière assez lourde, mais c'est peut-être à saluer qu'il ait quand même saisi ce thème du sida de manière très très directe dans les années 90.
Oui, il a été parmi les premiers dans les grands studios, en tout cas, c'est sans doute un film qui a marqué les mentalités, les consciences, et qui a fait entendre et voir d'autres vies que celles des spectateurs habitués ou tout venant des grands studios.
Il fallait que ce soit avec une star mainstream, justement. Donc il fallait qu'il soit un petit peu...
Oui, Tom Hanks, donc. Et Antonio Banderas, non ?
Oui.
Qui jouait son compagnon, m'en semble-t-il. Antoine Guillot, Jonathan Demme, vous le situez ou pas ? Pour reprendre ce que disait Charles Garçon à l'instant.
C'est un cas intéressant d'un réalisateur qui n'est probablement pas un grand cinéaste, qui a fait des grands films, malgré tout, dont on aurait du mal, et j'admire beaucoup les collègues qui se sont évertués à tirer des lignes stylistiques ou de préoccupations auteuristes, mais qui malgré tout étaient très sympathiques. C'est-à-dire que même dans ces films dits ratés, vous avez omis de parler d'un film qui m'avait beaucoup touché dans son côté très raté, qui était La vérité sur Charlie, qui était son remake de Charade, mais qui était en fait une façon de déclarer son amour du cinéma français, de la nouvelle vague, et notamment de François Truffaut. Il avait été son attaché de presse pour La mariée était en noir quand c'était sorti aux États-Unis, et il y avait un plan tout bête, mais il filmait la pierre tombale de François Truffaut, et c'était très émouvant, où il faisait ressurgir comme ça... je crois que c'était Agnès Varda au marché aux puces, tout simplement parce qu'un jour à Miami, il avait découvert Cléo de 5 à 7 et ça l'avait bouleversé. Il y avait quelque chose d'assez ingénu dans cette manière de faire et qui marque encore d'ailleurs Paris, puisque il avait créé un hôtel rue Saint-Lazare, qui était l'hôtel des Croisés, qu'il avait rebaptisé Hôtel Langlois pour les besoins de son film. Et l'hôtel s'appelle encore maintenant, je crois que ça doit être 15 ans après, l'Hôtel Langlois. Et ça restera jamais l'Hôtel Langlois. Je trouve que c'est un beau geste de cinéma, à la fois de rendre hommage à Henri Langlois et de lui donner un nom d'hôtel qui restera. Toujours, et puis il avait fait, ça c'était son côté encore humaniste, un très beau documentaire qui s'appelait L'Agronome, sur un animateur de radio à Haïti qui avait été assassiné par le pouvoir, il s'appelait Jean-Dominique je crois. Et là encore, c'était un film qui était très touchant. Donc c'est quelqu'un pour qui on a tous, pour une raison ou une autre, parce qu'il y a ceux qui l'aiment comme cinéaste de rock à cause de Stop Making Sense, ceux qui le vénèrent pour ce film qui est vraiment devenu culte, quel Silence des Agneaux. Il y avait de très belles choses. Je me souviens très bien du montage parallèle un peu roublard qui nous amenait à croire que le méchant se présentait à la porte de Jodie Foster, alors qu'en fait pas du tout. Ça, c'est certainement, ça lui venait de Roger Corman, et avec peu de moyens, avec une simple idée de cinéma, de provoquer une terreur intense. C'est-à-dire que ce moment, on était vraiment persuadé qu'il allait arriver, le découper. Mais il y a des moments comme ça qui restent.
Ouais, c'est un grand film, le Silence des Agneaux.
C'est quand même dire s'il y a, il y a une patte quand même, ou de l'invention chez Jonathan Demme fait que c'était un réalisateur qu'on aimait vraiment bien.
Ouais, je l'ai beaucoup vu à certains moments, le Silence des Agneaux. Ça peut s'étudier avec profit dans les écoles de cinéma, pas seulement de cinéma B. Et puis ce goût de la musique, on entend quand même Colin Newman chanter, le chanteur de Wire dans Le Silence des Agneaux, ce qui est quand même pas tout à fait rien non plus. Ça vous évoque ces films-là, Corinne Rondeau, quelque chose ?
Absolument. Oui, bien sûr, Le Silence des Agneaux. J'étais arrivé de le voir une fois par an pendant plusieurs années à la suite, après qu'il soit sorti. Ça a été un traumatisme intense de l'avoir vu à sa sortie, ça c'est clair. Mais par ailleurs, bon, Jonathan Demme, pour moi, représente pas grand-chose en termes de... Oui, les deux auteurs, comme l'ont dit mes camarades, de style. Après, je crois que quand tout a été dit, il n'est pas nécessaire d'en rajouter.
Mais Xavier Martinet va en rajouter un petit peu.
Oui, ce que je voulais essayer de faire en vous entendant, c'était faire comme Emmanuel Macron, concilier, disons, tous ces points de vue, c'est-à-dire à la fois l'humaniste,
en
effectivement,
temps,
et en même temps.
Et vous ne donnez pas de consigne de vote, s'il vous plaît.
À la fois l'humaniste qui a été évoqué par Hollywood, bien sûr, et le cinéaste aussi, parce qu'il me semblait, en revoyant justement, puisque j'ai eu le temps, et Le Silence des Agneaux, et Philadelphia qu'il y avait une chose assez frappante, au moins dans ces deux films, alors je ne sais pas les autres, mais c'était l'absence de plans larges, l'absence d'utilisation de plans éloignés, de grues, etc. Mmh. Sauf peut-être au début du Silence des Agneaux et à la fin, où effectivement on a un plan sur une rue. Et sinon, la grande permanence, c'est non seulement ces regards face caméra, évidemment le Silence des Agneaux est beaucoup construit dessus, y compris l'affiche, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais en même temps, cette manière de filmer, c'est pour ça que je disais tout à l'heure à hauteur d'yeux ou à hauteur d'homme, parce que c'est quoi ces outils à Jonathan Demme? C'est le travelling principalement à hauteur d'homme, c'est les plans à hauteur d'épaule, à hauteur d'yeux. On quitte jamais finalement ce point de vue complètement, non pas au ras du sol, mais à hauteur humaine. Et il me semblait que ça correspondait bien effectivement à cette manière de percevoir ou de vouloir faire percevoir ces marges des États-Unis et des films qui regardent leur public d'une certaine manière. Encore une fois, très clair dans Le Silence des Agneaux.
Bah, alors, c'est nous qui avons écouté, profité de votre analyse, mon cher Xavier.
Pas mieux.
Pas mieux, pas mieux. Genre de garçon, pas mieux. Grenando, pas mieux. Bah, voilà, hommage rendu à Jonathan Demme dans ce petit salon. Et on change de registre, hein, après Le Silence des Agneaux, Emily Dickinson, A Quiet Passion, film de Terence Davis, un nouveau biopic donc quand même assez loin de Dalida, consacré à la poétesse américaine, née en 1830, morte en 1886. On a souvent l'image d'elle comme d'une un peu excentrique, en tout cas assez marginale, sa vie en blanc, qui resta recluse une bonne part de sa vie dans la maison familiale, voire dans sa chambre. Alors ce sont des, pas forcément sur ces images-là que travaille Terence Davis, on va en parler. On peut dire encore qu'elle a écrit un poème par jour, donc près de 1800 dans son existence. Une douzaine seulement a été publiée de son vivant, et encore le plus souvent largement réécrit. Le cinéaste Terence Davis est un admirateur de longue date d'Emily Dickinson. Il a donc fait ce film, on s'en doute bien, pour lui rendre hommage.
This is my letter to the world that never wrote to me.
You are alone in your rebellion, Miss Dickinson.
Look at that divine creature. What a noble head he has.
Like a Roman emperor.
Nero.
Let's hope he's just as wicked.
And you, Miss Dickinson, what of you?
What of me, sir?
Will you not kneel and give yourself to God?
No, sir, I will not kneel.
Emily Dickinson, A Quiet Passion, sort demain sur les écrans français. Notre Emily à nous, Charlotte Garçon, pour commencer.
Alors, je ne suis pas très familière de la vie d'Emily Dickinson.
Mais j'avais, elle non plus.
Voilà, j'avais lu un tout petit peu ses poèmes quand j'étais plus jeune. J'avoue, ça m'avait plu, mais je m'en souvenais pas. Et je me souviens surtout de la photographie qui est assez diffusée d'elle quand elle a 15 ou 16 ans. Ces anciennes photographies ou ces daguerreotypes, Terence Davis a conservé, je trouve, quelque chose de cette esthétique-là. Si on connaît un petit peu son cinéma, on sait qu'il aime les tableaux au sens de tableaux vivants, donc des plans assez éloignés et assez peu de gros plans. Et je sais que parfois ce type de cinéma ressemble un petit peu à de l'académisme et je trouve que
de
si...
précautions
oui,
oratoires.
Oui, parce que j'ai douté au début du film et il m'a fallu un temps pour me dire ah mais oui, je suis bête, elle était américaine, et alors qu'on s'attend à ce type de film en costume, très 19e siècle, on s'attend à tout un casting d'acteurs anglais, comme c'est souvent le cas, y compris dans les films américains, on met des acteurs anglais parce qu'ils
pour
sont meilleurs.
Pour faire les Bostoniens.
Et là, non. Et Et déjà, j'ai eu une première surprise. Enfin, j'ai pas vérifié les nationalités des uns et des autres, mais c'est d'entendre de l'américain, ancien, je sais pas. Et déjà, j'ai trouvé qu'il y avait une couleur sonore qui, moi, tout à coup, m'intriguait et me plaisait et était à mille lieues, disons, du film Bronte, du film Jenner, tel qu'on l'attend, tel qu'on peut le désirer parce qu'on a envie d'entendre de l'anglais. Et là, tout à coup, c'était, j'étais amenée autre part. Et deuxième chose, je n'ai pas reconnu tout de suite l'actrice. Donc, son visage m'était familier, mais je me disais, mais où est-ce que je l'ai vu? Et c'est à la sortie, je crois que j'ai rencontré Antoine Guillot, un collègue et qui m'a donné son nom et m'a dit, ah, mais oui, c'est la fille de Sex and the City. Et je me suis dit, ah, mais oui, bon, c'est bien sûr. Et en fait, toute ma vision du film a été trouée de ces espèces de petits mystères, enfin, de choses bizarres dont je me disais, mais en fait, est-ce que je suis bien en train de voir ce que je vois? C'est-à-dire que ça peut apparaître comme un biopic d'espèce de femme corsetée et qui ne vit que dans ses poèmes et qui, effectivement, vous l'avez dit, n'a pas été publiée. Donc, a une vie complètement recluse et ignorante de sa postérité. Et en même temps, je trouve que le film joue de cette clôture, vraiment, de cette claustration. D'abord, elle-même, elle s'est recluse plus d'une quinzaine d'années chez elle. Mais le film lui-même, dans sa forme, redouble cet enfermement. Il y a à un moment un long panoramique, ou je ne sais plus si c'est un panoramique ou un travelling, mais enfin, un plan circulaire où on voit toute la famille, les membres de la famille, voilà, un à un, comme ça, autour du feu, on entend le tic-tac de la pendule, on se dit, mais c'est incroyablement pesant. Sauf que justement, ce côté étouffant de la famille, de la religion, etc., crée une tension qui est justement une tension interne au personnage. Et je trouve que ça donne de la force à un film qui, par ailleurs, sinon, risque de tomber dans une forme de joliesse, voire de côté un petit peu enjoué, que je trouve moins réussi dans le film, puisque, vous l'avez dit, Emily Dickinson, dans ce biopic-là, est montrée comme quelqu'un d'un peu plus sociable que ce qu'on cru à un moment. Et donc, elle a une amie, voilà, il y a un côté un petit peu rigolo, qui ressemble au dernier film de Whit Stillman. Voilà, ce côté un petit peu sautillant.
Ou Stephen Frears de Sherry.
Voilà. Ça, je trouve que c'est moins réussi. En revanche, le côté extrêmement sec, y compris dans le jeu et sans concession de ce personnage qui préfère mourir, qui préfère ne pas être publié, qui préfère ne pas vivre l'amour, si, etc., qui préfère rester chez elle, et finalement, je trouve beaucoup plus âpre que ce à quoi on pouvait s'attendre pour un biopic de femme poète, disons.
Corinne Rondeau.
À défendre la poète, oui. Le film, non. Je n'ai pas... c'est un film qui, effectivement, l'image est superbe. C'est tiré à quatre épingles, donc au bout d'un moment, ça commençait à peser pour moi. J'ai trouvé des effets comme le morphing qui a, je sais pas bien compris, sauf à me dire, oui, c'est vrai que pendant 4 ans...
Le temps passe.
Oui, mais... Non, mais je veux dire, à un moment donné, pourquoi utiliser un effet comme celui-ci, qui est effectivement très bien fait? J'ai pas compris. Cette manière de mettre une focale très étrange dans le jardin où il y a une discussion avec des flous, des fleurs qui sont floues sur les côtés, j'ai pas compris non plus. J'admets par contre la question du panoramique qui est complètement inscrit dans la poésie de Emily Dickinson, puisqu'elle disait mon affaire est la circonférence. Et si on regarde bien ses poèmes qui sont très difficiles à lire, qui sont faits plein d'incises, dont en fait on arrive presque à recombiner à l'intérieur d'une strophe, une continuité même des phrases qui sont tout à fait remarquables, puisque ça crée une circularité. Et c'est une femme, effectivement, qui a passé sa vie à tourner autour quand même de motifs qui sont très, très serrés, quoi. La mort, la nuit, la douleur, la blessure, cette blessure dans laquelle elle engouffre toute sa vie. Donc là-dessus, la question du temps aussi, le jour, les heures qui sont dans ses poèmes, m'apparaît tout à fait adapté à ces panoramiques au début avec la famille, puis à la fin, deuxième panoramique avec ce tic-tac qui est le temps, mais aussi faire le tour de qui sont autour d'elle d'une certaine manière. Et c'est aussi une manière de montrer avec rien, et là purement cinématographique, avec un moyen de caméra, de mouvement de caméra, de montrer qu'on peut passer d'un état de sensation à un autre, puisqu'en fait on la voit au départ, tout va bien, je crois qu'elle lit, et puis quand on arrive à la fin, fin de la boucle à nouveau sur elle, elle se met à pleurer. Mmh. Et donc, parce qu'elle est en train de prendre conscience de cette vie-là, qui est aussi la vie qui s'enfuit, et elle est tout le temps sur l'idée, dans ses poèmes, du temps qui s'effondre en lui-même. Et ça, je trouve que quand on est un peu lecteur de Emily Dickinson, cette forme-là est adaptée à sa poésie. Ce que je regrette dans le film, c'est qu'il n'y ait pas eu plus d'ambition cinématographique avec la forme même de la poésie de Dickinson, qui, à mon avis, est une manière aussi de la porter très haut, parce que moi, les voix off où on raconte, moi, j'ai pas l'oreille anglaise, j'entends pas sa poésie en anglais, même si, évidemment, c'est comme ça qu'il faut l'écouter. Je trouve que il y a une platitude, et vouloir rendre cette société ultra brillante, plein d'esprit, de bouges d'esprit, et tranchant et vif, bon, moi, ça m'est apparu assez insupportable, et à la fin, une demi-heure avant la fin du film, j'avais envie de tuer Cynthia Nixon en disant, bon, écoutez, arrêtez, on a compris. Puis la joute qui s'opère sur le corps, là, qui va, bon, moi, j'en pouvais plus, vraiment, j'en pouvais plus.
Il me semble, avant de vous donner la parole, Antoine Guillot, que pour moi, le problème était là, c'est le fait que le film soit à cheval sur deux registres, en tout cas, alterne, pas à cheval, il alterne deux registres là où, enfin, j'imagine que ça avait été votre cas aussi. Moi, j'ai du coup repensé à Patterson, le film de Jim Jarmusch, qui est un biopic sur un poète, de la même façon. Et je trouve que le film de Jarmusch, dont je me souviens encore, enfin, auquel je repense de temps en temps, tient une ligne, alors qu'il m'avait semblé ténu peut-être à la première vision. Je l'avais vu une deuxième fois et j'avais vraiment éprouvé pleinement cette ligne. Et je trouve qu'il y avait quelque chose d'absolument juste. Je ne dis pas que je préfère la poésie telle qu'on la voit dans Patterson que les écrits d'Emily Dickinson, mais en tout cas, il me semble que la Terence Davis, du coup, ne fait pas le choix d'une radicalité, ne fait pas un choix qui se serait tenu plus proche de la question de l'écriture. Alors, c'est extrêmement compliqué. Et que même si les scènes distrayantes le sont assez réussies, mais du coup, je me retrouvais sans cesse à me dire, mais en fait, quel genre de film suis-je en train de voir? Et voilà ce qui a gêné ma vision. Antoine Guillot.
Parce qu'il y a clairement deux parties dans ce film. Il y a A Quiet d'un côté et Passion de l'autre. Ah oui, c'est-à-dire que toute la seconde partie, c'est une passion au sens christique. Ouais. On va la voir souffrir dans son corps pour une rédemption qui sera la publication de ses poèmes après, même si c'est même pas la peine de le raconter dans le biopic, puisque tout se dirige vers ça. Et puis la partie quiet, donc où ça va plutôt bien, elle est bien avec sa famille, elle sourit tout le temps de façon insupportable. C'est la joliesse dont parlait le côté enjoué dont parlait Charlotte Garçon tout à l'heure. Et puis ce que je regrette aussi, c'est que c'est un film qui se regarde quand même beaucoup faire. C'est-à-dire que ces moments que vous avez décrits, des panoramiques ou de tels tableaux, s'affichent quand même comme tels. Et le reste du temps, ça reste quand même de longs moments extrêmement verbeux. Ça parle et ça parle et ça parle.
Des bons mots.
Et c'est filmé avec plus ou moins des bons mots. Pensé à Love and Friendship de Whit Stillman en regrettant le plaisir que j'avais dedans, parce que ça allait à toute vitesse. C'est un film d'action où la parole était action. Là, la parole est vraiment parole. Et dans ces moments-là, il filme très platement en chant contre chant, en permanence, d'un ennui total, avec toujours la même structure. C'est-à-dire, en gros, Emily Dickinson, qui est d'une intégrité morale absolue et qui ne transige sur rien, balance des horreurs à tout le monde. on lui demande, mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça quand même, Emily, tu exagères? Alors elle dit, mais non, j'exagère pas. Et sa sœur lui dit, oui, mais quand même, tu pourrais être plus gentille. Et là, Emily s'effondre en disant, oui, tu as raison, mais c'est parce que le monde est si terrible, je ne le supporte plus. Et cette structure revient un peu tout le temps. Donc ça fait un film qui est à la fois un peu pompeux dans sa façon d'afficher son dispositif et assez feignant dans la manière, au bout du compte, de le faire. Et si on ne goûte pas l'anglais classique et les films où c'est parlé comme dans un livre, les effets théâtraux de la lumière qui change à vue, etc., on peut effectivement ressentir un ennui profond, ce qui a été mon cas, je l'avoue.
Allez, dernier mot pour la défense, Charlotte Garçon.
Oui, mais on l'a entendu dans la bande-annonce, c'est dit dans le film, c'est ma lettre au monde qui ne m'a jamais écrit. Enfin, et donc cette espèce de côté agaçant dont vous parlez tous, enfin, très très frustrant, moi je trouve que c'est justement, moi c'est ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il est effectivement peu lisible. Il est beaucoup moins lisible.
Nous avons tous des miennes effarées.
Parce que si on écoute, non mais vous dites que c'est bavard, mais si on écoute vraiment ce qui est dit, et c'est difficile parce que c'est vrai que c'est bavard, donc ça va vite, donc on laisse passer des choses, et puis il y a les poèmes, les conversations.
On a tous bien écouté.
Et ben, je trouve qu'il y a des choses à la fois très fortes, très anecdotiques, qui s'enchaînent et qui rendent tout ce texte, effectivement c'est un texte, beaucoup plus tressé et nuancé que ce que vous en dites, et pas du tout le film en costume. Voilà,
mais c'est un biopic original, ça je suis bien d'accord.
De
je comprends très bien la mise en scène qui enferme le personnage.
Ce qui est
mais il l'affiche beaucoup
dans un film. Moi j'ai pensé plutôt.
Je vous en prie, Charlotte.
Moi j'ai pensé plutôt à cris et chuchotements et au côté insupportable. Mais si. Et au côté très insistant, non, mais insupportable de la forme, de l'excès formel.
La question des corps, c'est faire ressurgir quelque chose du corps dans un film qui n'en a pas. Et la deuxième chose, c'est que l'exaspération du personnage que joue Cynthia Nixon empêche de rentrer dans sa poésie. C'est ça qui est insupportable. C'est ça qui, à la fin, on a envie de lui dire arrêtez le film et allons lire la poésie. Parce que si c'est ça, l'orgueil dont elle parle, qui la met dans son propre isolement, ce n'est pas le film. Pour moi, c'est pas ça. Ça va pas du tout.
Bon. On ne vous réconciliera pas. Sur Emily Dickinson, allez voir par vous-même demain ce film de Terence Davis qui sort, Emily Dickinson, A Quiet Passion.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Troisième sujet un peu rapide, cette dispute cinéma, ce sera Mister Universo de Tsitsakovi et Rainer Frimmel qui jouent entre le réel et la fiction. Hein, les réalisateurs qui suivent Tairo, jeune dompteur de fauves dans un petit cirque itinérant dont le porte-bonheur a disparu. Il s'agit d'une affaire tordue quand il était enfant par Arthur Robin. Mister Univers en 1957, Tairo va partir à sa recherche pour essayer donc de remplacer son porte-bonheur.
De pronto, Kratos. Allez, oh.
Così la fortuna cade tutto dentro, la rimane dentro il ferro di cavallo.
Batti cuore, batti forte dentro.
Cos'era?
È fuori di testa. Vedi, c'è la luna, il folle, l'appeso. Non riesce a contenere più la sua vita.
No, ehi, cosa c'hai oggi?
Così!
Uno, due e tre.
E tre.
Il resto resta dietro a me.
Ma tu credi al portafortuna?
Hai portafortuna? No, in questo sì.
Arthur Robin, guarda, io lo conosco poco, spero che sia vivo.
Madonna, guarda che gambe, che braccia.
Beh,
il braccio è come il mio più o meno.
Sei uguale. Ma sì. Mamma sta cercando?
Perché il mio ferro è sparito, me l'hanno rubato. Oh, che fai, non bussi?
Les petits clous, hein, top 50, Batti Cuore. Moi, j'ai chanté ça pendant une semaine après avoir vu ce film. Je ne remercie pas Tsitsakovi et Rainer Frimmel. Antoine Guillaume, je suis sûr que vous l'avez chanté, vous aussi.
Alors, ça fait 2 mois que je l'ai vu pour la première fois et je peux vous assurer que ça reste toujours, toujours dedans, mais aussi parce que la scène finale où on entend longuement cette musique, je l'ai trouvée magique, bouleversante. Voilà, je regrette qu'on n'ait pas beaucoup de temps pour mettre ce film parce que pour moi, c'est le plus beau des trois dont on a parlé aujourd'hui. Alors, il faut raconter un peu le cinéma de Tsitsakovi et Rainer Frimmel, mais parce que ça dit beaucoup du film, si certains avaient vu L'éclat du jour ou La Pivellina, qui était leur premier long-métrage de fiction, il faut expliquer qu'ils prennent des personnes de la vie réelle, c'est-à-dire ces personnes du monde du cirque, des forains italiens, et leurs personnages vivent une histoire qui, elle, est écrite. Voilà, donc on est dans une frontière entre le documentaire et la fiction qui fait pour beaucoup dans l'émotion qu'on ressent dans ce film tourné en super 16 mm. Il est dédié d'ailleurs à la fin à toutes les personnes qui ont perdu leur travail à cause de la numérisation du cinéma, et ce côté élégiaque on le ressent beaucoup dans ce film qui filme ces artistes de cirque un peu misérables économiquement parlant, ce qui fait qu'on a des vieux fauves qui sont tous en train de mourir, un chapiteau brinque-ballant, des corps de qui casse, qui va partir sur les routes de ce qui est aussi une autre Italie, c'est-à-dire une Italie qu'on n'a pas l'habitude de voir, une Italie où il fait pas très beau, où les ciels sont plombés, où la misère est là, mais où il y a un sens. On dira de la famille parce que c'est un peu le cliché, mais qui est réellement là. C'est-à-dire qu'on sent, on va prendre les nouvelles des gens qu'on ne voit pas souvent simplement parce qu'on a son propre cirque et qu'on tourne. Et quelque chose, voilà, qui tient beaucoup à une émotion qui est aussi d'avoir vu vieillir les personnages qu'on connaît. Si on suit le travail de Tsitsakovi et Rainer Frimmel, Tairo était un adolescent dans La Pivellina. On croise Patty qui avait les cheveux rouges flamboyants et qui là est un peu une vieille dame. Et on voit tout ce vieillissement, le moment où on arrive jusqu'à Arthur urbain est absolument magnifique. Et ce qui pourrait être d'un réalisme total est de temps en temps percé par des moments magiques comme cette route où l'eau remonte la pente, ou ces petites bougies qu'on va jeter dans la rivière parce qu'il y a tout quelque chose sur une pensée magique qui habite ces personnages et qui va remonter le courant là encore. Donc voilà, c'est un film qui m'émeut énormément par la douceur et la beauté de ces images et de ces personnages.
Charlotte Garçon est mieux par Mister Universo.
Oui, parce que effectivement, je pense que le film se tient à la frontière, mais comme aucun autre en fait cinéma entre documentaire et fiction, et que l'exemple que vous avez donné, Antoine, à savoir cette route qui a une certaine pente, et quand on met de l'eau dessus, au lieu de couler, elle remonte.
Les voitures aussi remontent.
c'est peut-être une sorte de traité esthétique aussi de ce type de cinéma, c'est-à-dire et pourtant c'est du documentaire, et pourtant c'est de la fiction, et pourtant les gens qui a priori ne sont pas des créateurs de fiction, ont un appétit de romanesque, et des gens qui ne sont a priori pas des acteurs jouent mieux que la plupart des acteurs dans les films dont on a parlé ce soir. Donc effectivement, il y a ce mystère, il y a vraiment une sorte de miracle, on peut dire, de ce processus de cinéma dont on se dit à un moment ça va pas marcher, il y a quelque chose qui va être faux, et non, ils y arrivent, et de film en film ils y arrivent, et il me semble même avoir vu un film avant La Pivelle. Mais alors là, c'est peut-être complètement... Là, il crée des films dans les têtes des spectateurs. Mais c'est Babouchka ou Babou...
Qui était un pur documentaire,
celui-ci. Ah voilà, celui-ci. C'était du documentaire. Et du coup, à chaque fois que s'annonce un nouveau film, je trouve qu'on a envie d'y aller. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de voir ce qui est arrivé dans la vie des gens réels. Et en même temps, on se dit, ah mais oui, non, en fait, il y a quand même une histoire, il y a quand même une fiction. Mais on a un appétit pour les deux en même temps. Et je pense qu'ils sont... Alors, je ne sais pas s'ils improvisent vraiment les dialogues ou si ce sont des dialogues qui leur sont donnés.
Le film est écrit dans son déroulé, mais effectivement, les personnages improvisent les dialogues à partir de situations.
Quand Tyro est avec sa mère et que elle dit, il lui dit, tu es plus des oignons, est-ce que ça te fait pas pleurer? Elle dit, pas besoin d'oignons pour pleurer. Et tout à coup, on a une idée de ce qu'est cette vie qui est difficile, qui est pas du tout un folklore mignon avec des lions tout râpeux. Il y a quelque chose d'extrêmement dur, en fait. Et d'où le besoin aussi des porte-bonheur et voilà. Et leur côté, leur nécessité vitale.
Corinne Rondeau, Mister Universo.
Ah bah le cinéma est magique, voilà, c'est comme la vie. Et je trouve que pour le coup, cinéma réel, ça prenait un sens pour moi quand j'ai vu ce film. Je l'ai trouvé formidable parce qu'en fait, il n'affirme que des positions subjectives. Il faut savoir que le film va rentrer dans son action au moment où il va perdre son porte-bonheur. Et il va vouloir le retrouver, et donc voilà. Et en fait, ce chemin est aussi volontaire que la force de ce Mister Universo qui va les revoir. Et je trouve que ce road movie qui n'en est pas un, mais ces points qu'il marque sur cette route où effectivement il rencontre tout le monde, les gens qu'il rencontre et dont il parle comme tous les jours, il parle, et ce qui est merveilleux, c'est un film que j'ai estimé merveilleux, c'est-à-dire comment on dépasse les limites de l'ordinaire avec l'ordinaire lui-même. En sachant que ce sont des gens à la marge et que, en fait, ces gens-là fabriquent de manière volontaire avec leurs propres croyances. Et pour moi, ce film, c'est littéralement l'invention d'un mythe contemporain. C'est-à-dire comment on affirme des positions qui sont de nos propres destins, puisque Tairo, c'est aussi quelqu'un qui va aller, qui est un dompteur. Ce porte-bonheur, c'est aussi pas se faire bouffer dans la cage. Il veut plus aller dans la cage parce qu'on lui a piqué pour des affaires intestines des cartes. Avant entre elles, entre les Roumains, les Italiens, les machins. Et là, d'un coup, là où il y a un conflit ethnique, un conflit de pouvoir, d'un coup, ça devient une aventure, mais une épopée d'aujourd'hui, avec sa bagnole, sa musique, ses parents, où est-ce qu'il est, machin. Et c'est cette aventure pour pas aller rencontrer un prince, une princesse, ou je sais pas quoi, mais quelqu'un qui va lui dire, moi j'ai de la force, et non, je te le referai pas, parce que j'ai plus ma force, parce que je suis vieux. Et là, d'un coup, c'est sa propre volonté qui va se manifester, à côté de toute la croyance qu'il y a dans ce cirque aussi, la chiromancienne, la bougie dont vous parliez. Et c'est vraiment cet endroit la vie est faite de magie, la vie est merveilleuse, et elle est faite de d'une route qui est réelle, sur laquelle la vision et le corps ne sont pas au même endroit. Et c'est ça qui est merveilleux.
Ah, ça, c'est pour les auditeurs et auditrices qui pensaient ce soir que vous n'aimiez aucun film. Corinne Rondeau, on entend votre amour pour ce film. Et à propos d'amour, moi, c'est ce qui m'a plus touché quand même. C'est la très belle histoire d'amour, mais je ne dévoilerai pas comme vous trop de choses sur ce film.
Mais j'ai pas.
Si, vous avez beaucoup de choses.
Quel long chemin il faut pour rencontrer l'amour.
Enfin, quel long chemin, ou pas. Charles Garçon.
Mais dans tout ce que vous dites, on entend bien ne pas se faire manger par le lion, même s'il est vieux, parce qu'il est encore dangereux. Il y a aussi une contorsionniste et à qui il est dit, toi, tu n'as que ton corps pour bosser. Et peut-être que les artistes de cirque sont des acteurs, mais poussés au maximum, qui n'ont que leur corps pour travailler. C'est-à-dire que la fragilité du corps, et y compris quand on n'est plus assez musclé pour tordre le fer, ça devient quelque chose de vital. C'est la mort, quoi. Et on le voit de manière nue dans ce type de film, qu'un acteur, c'est effectivement d'abord un corps.
Antoine Guillot ?
Oui, mais c'est ça. D'ailleurs, le plier le fer, plier le corps, c'est ce qu'on a encore, c'est ce qui nous échappe, ce qu'on arrive à contrôler, et comment on prend des circonvolutions pour arriver finalement à l'inattendu qui était là sous vos yeux.
Je dis plus rien parce qu'on sait jamais.
Si votre amour pour Mister Universo, un film. Alors, si on n'a jamais vu de film de Tizakovi et Rainer Frimmel, c'est une sacrée aventure que de voir ce Mister Universo qui, moi, au départ, moi, j'ai vu aucun. Un peu dérouté, je me suis dit, mais en fait, j'ai plus envie de voir leur histoire ensemble plutôt qu'ils me racontent une fiction intérieure de documentaire. Et puis, j'ai été pris. Voilà. Il faut laisser. Non, mais ça agit mais pendant le temps de la projection.
Moi, j'ai pas cru la fiction une seconde.
Ah oui.
C'était que de la vie.
Oui, non, mais enfin, y a ça. Oui, parce que c'est vrai aussi ce que vous dites. Mais l'inverse aussi. C'est ça,
oui,
la magie.
Oui, Arnaud. Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Bon, on y croit encore.
C'est on y croit encore. Mister Universo de Tizakovi et Rainer Frimmel. Il est sorti la semaine dernière ou il sort demain?
La semaine dernière.
Il est sorti la semaine dernière. Hein, ouais. Sorti la semaine dernière. Allez-y.
Ah oui.
Et nous concluons avec le jeu de la dispute ce soir avec moi, Boris Pinault, pour rappeler d'abord la question du jeu d'hier soir et donner la réponse, Boris.
Nous nous demandions quel est le nom de l'événement qui a eu lieu le 2 février 2011, place Tahrir au Caire, et que Yousri Nasrallah a mis au cœur de son film Après la bataille. Et la réponse est la bataille des chameaux.
Et on fait gagner ce soir, on reste dans le domaine du cinéma, des DVD, de deux films de Briente, Ma Mendoza, Tacloub et Marosa. Des DVD édités et distribués par Pyramide. La question, Boris ?
Alors, dans le film Marosa, les protagonistes vivent du commerce d'une drogue extrêmement addictive qui est aussi au cœur de l'intrigue de la série Breaking Bad. Quel est le nom de cette substance?
On ne demandera pas la couleur. Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter ou vous abonner au podcast de ces émissions. Vous pouvez aussi écrire, commenter sur la page Facebook La Dispute FC, le Twitter Dispute FC. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Yasmine Yossi, Anaël Pija. Notre affiche, un focus sur la proposition Art Afrique, le nouvel atelier à la Fondation Louis Vuitton à Paris, avec trois expositions. Être là, Afrique du Sud, une scène contemporaine, Les Initiés, choix d'œuvres dans la collection d'art contemporain africain de Jean Pigozzi, et puis une sélection d'œuvres africaines de la collection de la Fondation Louis Vuitton. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir, et dans quelques instants, le journal de la rédaction. Thank you.